Logis naturel, 6 juin 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Je vois tout de suite les objections de l'article 5, cet article curieux, je vous avais dit intéressant pour voir comment saint Thomas assume le point de vue de Saint-Augustin. Alors, nous voyons tout de suite. C'est tombé, je crois. Vous me direz si vous entendez suffisamment dans le fond. Si vous n'entendez pas assez, je vous demanderai de lever la main. Et alors, je donnerai un peu plus de voix. N'y aurait-il pas là quelque confusion? Le bien diffère de l'être. Or, c'est à l'être que paraissent rapporter ces trois termes. Car il est dit dans l'Écriture, « Tu as tout disposé, Seigneur, avec nombre, poids et mesure. » Et c'est à cette trinité que se ramène la division augustinienne. Saint Augustin lui-même l'indique en disant, c'est la mesure qui détermine à chaque chose son mode. C'est le nombre qui lui donne l'espèce. C'est le poids qui l'entraîne vers son repos et sa stabilité. Donc vous voyez, tout revient, cette analyse s'enracine dans cette affirmation, mesure. Non. Mesure. Alors, vous avez le mode. Toujours le parallélisme entre la mesure et le mode. Hein. Le point de vue du nom, l'espèce. Et le point de vue du poids qui l'entraîne vers le repos et la stabilité. Alors ça, c'est le point de vue, justement, de l'ordre. L'objection consiste à dire ceci, selon l'Écriture, puisque ça, c'est la parole de l'Écriture, c'est la parole de l'Ecclésiaste, donc, de l'Église de la Sagesse. C'est la manière de voir que tout est trinitaire. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout provenant de Dieu a la marque de Dieu sur toute chose. Mesure, nombre, poids. Puis alors, saint Augustin traduit à sa manière, d'une manière néoplatonicienne, mode, espèce, ordre. Alors, l'objection consiste à dire que ceci est dans l'ordre de l'être. C'est la créature existante, l'on transpose ici dans l'ordre du bien. Or, les divisions dans l'ordre de l'être ne sont pas nécessairement dans l'ordre du bien. Alors, conclusion, saint Thomas répond, consacrer cette division du bien, ce ne sera point dénier à ces trois termes leur rapport avec l'être. Mais il concerne l'être en tant que l'être est parfait, et sous ce rapport, l'être et le bien. Donc, ista tria non consequuntur ens, nisi in quantum est perfectum. Vous voyez, la traduction glose un peu, n'est-ce pas ? Parce que saint Thomas prend quelque chose de beaucoup plus direct. C'est trois. Considère l'être en tant qu'il est parfait, donc en tant qu'il est bon. C'est bien plus direct. Considérez que cette division-là ne regarde pas l'existant comme tel, mais l'existant parfait. La créature dans son retour vers Dieu, donc la créature parfaite, elle implique ces trois moments. Elle implique ces trois moments, donc c'est le point de vue de la bonté. Facile à comprendre. Ce qui est intéressant, c'est simplement de rappeler l'origine de ces trois. Modus, espèce, ordo, ça s'enracine directement dans l'analyse de l'écriture. Vous voyez, c'est toujours cette difficulté, et c'est ça, c'est toujours le même problème. L'écriture n'est pas une analyse philosophique. C'est au niveau descriptif. Toujours. L'aspect descriptif de sagesse. C'est le cas de le dire, parce que c'est dit dans la sagesse. C'est un jugement de sagesse. Vous voyez ? C'est un jugement de sagesse. C'est pas une analyse de la réalité comme telle, mais c'est un jugement de sagesse. Dans la lumière de Dieu, toutes les réalités impliquent mesure, nombre, poids. Dans la lumière de Dieu. Donc c'est bien un jugement de sagesse. Saint Augustin transpose dans une analyse qui devient philosophique. Vous voyez le passage. Mode, espèce, ordre. Mais ce n'est pas une analyse vraiment philosophique, c'est plutôt un aspect descriptif, comme toujours Saint Augustin. Et Saint Thomas, lui, reprend la chose dans une distinction qui est une distinction beaucoup plus philosophique, en prenant espèce, ce qu'il a pris du reste encore de l'article, espèce, forme, et puis le point de vue de l'ordre comme tel. Alors, seconde objection. En outre, le mode, l'espèce et l'ordre sont des biens. Si donc le bien consiste dans les trois, il faudra que chacun des trois contienne à nouveau les trois ensemble. Et que dans le mode, par exemple, on trouve mode, espèce et ordre, et ainsi de suite, et on ira donc à l'infini. C'est une grosse objection, un peu bête, n'est-ce pas ? Qui consiste à montrer que la division doit se retrouver. C'est comme si, c'est une division comme si on prenait les éléments, comme si c'était les éléments du bien. Alors, la réponse de saint Thomas, ça c'est très joli comme traduction, n'est-ce pas ? La crainte de l'infini dans les attributs, c'est la crainte de l'infini. C'est, voyez la réponse. C'est quand même dit chandum quad. Modus species et ordo. Et au modo di contour bona. Sont dit bon, sont dit bien, sont dit des réalités bonnes, et au modo, de cette manière, comme ensia, comme les existants. Non parce qu'ils sont eux-mêmes, quasi subsistentia, comme s'ils étaient des éléments. C'est là l'erreur. On les considère comme s'ils étaient des éléments, comme s'ils subsistaient. Alors on aurait un mode, considérant même, espèce et ordre. Ces trois éléments vont monter à sa tête. Alors à ce moment-là, on voit très bien. Dans chaque réalité bonne, vous trouvez de petits ingrédients. Un peu de sel, un peu de poivre, un peu de... Trois éléments. Mode, espèce et ordre. Ce n'est pas des éléments. Ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est la séparation. C'est au contraire une analyse qui consiste à essayer de comprendre une analyse. Un aspect de description qui consiste à voir que dans toutes les réalités bonnes, vous trouvez mode, espèce et ordre. Trois aspects différents. Donc, la crainte de l'infini dans les attributions ne repose que sur une erreur. Les trois attributs mentionnés, modus, species et ordo, dit contour, donc sont dits, ne sont pas dits des biens, mais plutôt, ne sont pas dits des biens, non plus que des êtres, à la façon de choses subsistantes, qui pourraient appeler ensuite des caractéristiques nouvelles. Ils sont existants et bons comme le peuvent être des attributs, c'est-à-dire en ce sens que par eux-mêmes, quelque chose est et ce quelque chose est bon. Il n'y a donc pas de nécessité que ces attributs, en vue d'être bons, revêtent d'autres attributs similaires, car on ne dit pas qu'il soit bon par une information étrangère, ils sont eux-mêmes la forme attributive ou accidentelle par laquelle le sujet est bon. C'est ainsi que la blancheur est appelée un être, non qu'elle soit par elle-même, et revendique pour son compte quelques principes d'être, oui, comme c'est compliqué, hein, mais parce que par elle, un sujet est sous un certain rapport, c'est-à-dire est blanc. La traduction complique énormément. Nous allons maintenant lire le latin pour qu'essayer de comprendre. Hein. Vraiment, la traduction, on n'y comprend rien. Moi, je ne sais pas si vous comprenez, moi, je ne comprends pas. Si je regarde, c'est ça qui est un peu terrible. Hein. Alors, il faut dire que modus species et ordo sont dit bona, sont dit bon, et homo modo, de cette manière. Sicut ensia, ils sont dit aussi ensia, sont dit être et bien. Donc, tous les deux sont dit être et bien. Tous les deux sont dit bon, espèce sont dit bon, bona, c'est-à-dire des réalités bonnes, des réalités bonnes ou des réalités existantes. À leur manière. Ça, on ne précise pas. C'est une manière de regarder les choses. Je crois que c'est ça qu'on dirait. C'est une manière de regarder les choses. Vous regardez, quand vous regardez une chose bonne, vous pouvez dire que toujours il y a mode, espèce et ordre. Et dans toutes les réalités existantes, vous pouvez aussi avoir ces trois aspects. Alors, non parce qu'ils sont quasi subsistentia, mais parce que par eux, les autres sont et existants et bons. Donc, vous voyez, c'est là la petite subtilité de l'analyse. Ils ne sont pas quasi substantia, c'est-à-dire comme des éléments existants. Quasi substantia, comme des réalités subsistantes. C'est bien évident, ce ne sont pas des réalités subsistantes. Le mode, l'espèce et l'ordre, ce ne sont pas des réalités subsistantes. Mais parce que par elle, par ses déterminations, par ses diverses déterminations, mode, espèce et ordre, les réalités sont dites bonnes et existantes. De là, unde, c'est pourquoi il ne faut pas que ces réalités aient aliqua alia par lesquelles elles sont bonnes. Il ne faut pas qu'elles aient autre chose par lesquelles elles sont bonnes. C'est par elles-mêmes qu'elles sont bonnes, vous voyez. Ce n'est pas des dénominations extrinsèques, mais c'est par elles-mêmes. C'est une sorte d'analyse qu'on fait, voilà ce qu'on pourrait dire. En effet, elles sont dites bonnes, elles ne sont pas dites bonnes. Quasi formaliter alis ipsa sunt bona. Mais quia ipsis, par celle-ci, formaliter aliqua sunt bona. Alors l'exemple, sicut albedo, non dicitur ens quasi ipsa aliquo sit, mais sed quia ipsa aliquid est secundum quid, cilicet album. Donc c'est au fond très simple à essayer de préciser. Saint Thomas veut montrer que tout simplement on dit une réalité bonne, et quand on la dit bonne, on peut impliquer ces trois déterminations, mode, espèce et ordre. Mais c'est tout simplement préciser que dans la réalité, que ces réalités qui sont bonnes impliquent ces trois plis, ces trois déterminations, ces trois aspects sous lesquels je la regarde. Et ça ne fait pas appel à autre chose par lesquelles elles seraient dites là. C'est par elles-mêmes qu'elles le sont. Une réalité bonne, dans toute réalité bonne, comme dans toute réalité qui existe, je peux discerner le mode, l'espèce et l'ordre. C'est simplement cela que Saint Thomas souligne. comme quand je dis que cette réalité est blanche, ça veut dire qu'elle est dénommée blanche. Et la blancheur vient d'elle. Il ne faut pas faire appel à autre chose. Il ne faut pas faire appel à une forme extrinsèque qui serait elle-même le mode parfait, le mode en soi, l'espèce en soi, l'ordre en soi. Donc c'est au fond tout simplement rappeler qu'il s'agit là d'analyser une réalité selon ses différents aspects. Troisième objection, ajouter que le mal consiste précisément dans la privation de ces trois choses. Or, le mal n'épuise jamais le bien. C'est donc que le bien ne se tient pas dans ces trois limites. Alors, réponse, il faut comprendre aussi que nos trois attributs étant ce qu'ils sont. Ça aussi, c'est une petite glose. Hein. Que ces trois attributs étant ce qu'ils sont, leur présence ou leur privation n'obéit pas à la loi du tout ou rien, comme l'argument voudrait le supposer. La loi du tout ou rien, cherchez bien. Le tout. Tout être, je lis parce que c'est intéressant de voir, les... tout être, toute participation de l'être répond à une certaine forme. Et puisque les attributs augustiniens se rapportent à la forme, autant dans un sujet, on pourra distinguer de façon d'être, autant de fois il y aura lieu à mode, espèce et ordre. Oui, c'est assez compliqué comme traduction. Par exemple, un homme réalise cette trinité en tant qu'homme, de nouveau en tant que blanc, en tant que vertueux, en tant que savant, etc. Si par le mal, il est privé de quelqu'un de ses modes d'être, par exemple la vue, il ne perdra donc pas toute participation aux attributs du bien, mais seulement celle qui correspond à la forme d'être ainsi compromise. Et ainsi, la loi est la même du bien et des trois attributs qu'on lui prête. Le mal ne les épuise jamais. Vous avez compris ? J'en réponds. Il faut donc dire que quod libet esse, n'importe quel existait, et selon une certaine forme, par le fait même, donc tout exister implique une forme, tout exister implique une détermination. Ça, tout le monde peut le comprendre. C'est le transcendantal res. Toute réalité implique une détermination. N'importe quelle existait implique une certaine forme. D'où, selon quod libet esse rei, selon chaque existait de la chose, consequuntur ipsa modus species et ordo. Par le fait même, on pourra distinguer dans n'importe quel essai de n'importe quelle réalité le modus, l'espèce et l'ordre. Vous voyez, saint Thomas précise bien, ces trois aspects regardent la détermination et la forme de la réalité. Toute forme peut impliquer ces trois aspects. Je peux les regarder sous ces trois aspects. Donc, c'est bien les perspectives différentes d'une forme, n'importe quelle forme. C'est toujours le langage d'Aristote qui va expliquer le reste. Hein. C'est ça qui est intéressant à noter au point de vue méthode. Hein. Saint Thomas revient à Aristote pour expliquer. Donc il revient à la forme. Toute forme implique trois dimensions. Voilà ce que je dirais, trois aspects. La forme en elle-même, la forme dans sa disposition et la propriété. Ce n'est pas trois réalités, c'est trois regards différents sur la même réalité. ces trois regards différents sur la forme. La disposition vers la forme. La forme étant là, la propriété. Bien trois dispositions, c'est bien trois moments différents, mais sur la même réalité qui est la forme. Cette forme, elle est longue, elle est espèce. Cette forme, elle-même, elle est mesurée. Elle est morte. Et elle est en propriété. Donc dans toute réalité déterminée et parfaite, vous dites bien, ça ne va pas souligner, est parfaite. Toute réalité parfaite. Parce que seules les réalités parfaites impliquent l'explicitation de la propriété. Une réalité qui n'est pas parfaite, qui est à l'état embryonnaire, n'implique pas encore la propriété. Il faut que la réalité soit parfaite pour que la disposition devienne propriété, pour que la forme s'épanouisse pleinement dans la propriété. Donc, c'est bien le caractère d'une forme parfaite. Toute forme parfaite implique elle-même sa détermination, sa disposition et sa propriété. Et donc, toute forme parfaite implique bien ce triple regard, modus, espèce, ordre. C'est ça qui est à retenir. Hein, vous voyez bien, c'est pas quelque chose de tellement compliqué. C'est tout simplement le triple regard que je peux avoir sur une forme. Alors, ce serait intéressant de voir. Là, je suis dans un aspect descriptif. Là, je suis dans un ordre d'analyse. Pourquoi ? Cause formelle, cause matérielle, cause efficiente. Quand je regarde la forme en tant que propriété, en tant que disposition, je regarde la forme dans son enracinement dans le sujet, c'est la disposition, dans son épanouissement vers sa fin, la propriété. Tandis qu'ici, quand je me prends modus, espèce et ordo, je n'ai pas l'analyse par les causes. C'est toute la différence entre l'aspect d'Aristote et l'aspect de Saint-Augustin. L'aspect d'Aristote implique une analyse par les causes. Disposition, forme, propriété. C'est sous-jacent. Cause matérielle, la disposition, la forme prise en elle-même, et la propriété, qui est le point de vue ou de l'efficacité, la cause efficiente, tout être parfait peut engendrer. Il est cause efficiente, ou cause finale. Tandis qu'au contraire, quand je prends mode, espèce et ordo, je n'ai pas l'analyse par les causes. J'ai simplement un regard descriptif sur la réalité. Ce qui est astucieux, vous voyez, c'est de voir que ce regard descriptif sur la réalité, en réalité, s'enracine dans une analyse par les causes. Et c'est ce que fait Saint Thomas ici. Donc, j'ai, si vous voulez, on dirait aujourd'hui, j'ai une, deux, trois lectures, j'ai trois lectures de la même réalité existante, considérée en tant que parfaite et bonne. Dans toutes les réalités existantes, je peux avoir une triple lecture quand je les considère. Une lecture de sagesse, une lecture descriptive, une lecture d'analyse. Je reprends. Une lecture de sagesse, c'est le point de vue du livre de la sagesse. Une lecture descriptive, un peu néoplatonicienne, et une lecture d'analyse aristotélicienne. Et vous voyez que la lecture néoplatonicienne, c'est l'intermédiaire entre l'analyse philosophique et la vue de sagesse. Et c'est ça l'astuce. Oui. Cette lecture néoplatonicienne est intermédiaire entre la lecture de sagesse et l'analyse aristotélicienne. Ce que je crois être très juste. Parce que toute description est plus proche d'un regard de sagesse que l'aspect purement analyse. Autrement dit, c'est plus difficile de rejoindre immédiatement la vision de sagesse en posant l'analyse aristotélicienne qu'en prenant l'analyse néoplatonicienne de Saint-Augustin. évidemment le mal, comme toujours, la bonté implique une intégrité. Le mal implique simplement un manque. Et donc une réalité mauvaise, elle dit privée, si elle est privée de sa propriété, si elle est privée de sa forme, si elle est privée de sa disposition. Et le mal va de plus en plus loin. Bien sûr. Quand la maladie est profonde, la propriété disparaît, la forme tend à disparaître, et puis il n'y a plus que la disposition. Et guérir une maladie par la disposition, c'est permettre que la forme revienne et que la propriété revienne. Et c'est pour ça que le mal implique tout simplement l'absence du mort, ou l'absence de l'espèce, ou l'absence de mort. Alors la question qui se poserait, c'est de savoir, l'absence de l'ordre peut très bien se faire sans l'absence de l'espèce et du mode. Mais est-ce que l'absence du mode ne va-t-elle pas engendrer nécessairement l'absence des deux autres ? Là, c'est une question que Saint-Amand ne traite pas. Et on pourrait se poser la question. Quand le mal est très enraciné et qu'il supprime la disposition, est-ce qu'il ne va pas supprimer nécessairement la forme et la propriété ? Oui. Ça, c'est une question de savoir jusqu'où le mal peut s'enraciner. Question de maladie. C'est tout à fait la question de la maladie. Jusqu'où le mal peut-il s'enraciner ? Quand le mal regarde uniquement l'épanouissement, vous n'êtes plus tout à fait en forme. Vous n'êtes pas malade, mais vous n'êtes pas en forme. La propriété est un petit peu abattue. Vous êtes vraiment malade, la forme disparaît. Et vous êtes moribond, la disposition. Alors, si vous êtes moribond, il est bien évident que la forme disparaît, que la propriété disparaît. Vous voyez ? Il y a un degré dans le mal, il y a un degré dans les privations. Être privé de la propriété, très ennuyeux, mais c'est être privé de la fécondité, du rayonnement. Je pense que c'est l'arbre qui peut faire du monde, qui a coupé les ailes. Il reste un temps. Alors, il a la forme. Et puis, il est malade. On sait plus très très bien. Alors, il n'y a plus qu'à disposition. C'est un vivant. Et le pan, il a un peu disparu. Alors, il est un vivant génériquement, vous voyez. Il est moribond. Un moribond est encore un vivant. Hein. L'intelligence de l'homme ne se voit plus beaucoup. Alors, il est vraiment moribond. Ça touche la disposition. On voit très bien le mal qui s'enracine de plus en plus, vous voyez. Mais évidemment, le mal n'implique pas nécessairement la disparition des trois. Alors, voyons, quatrième objection. De même encore, le mal ne peut affecter le bien dans son essence même. Or, on dit, une mauvaise espèce, un mode défectueux, un ordre fautif. De là, donc, là n'est pas la nature du bien. Hein, c'est très astucieux aussi. Alors, quand après cela on dit un mauvais ordre, un mode fautif, etc., on ne veut pas qualifier mauvais un ordre en tant qu'ordre, un mode en tant que mode. On veut dire qu'ils ne sont pas dans le sujet ce qu'ils devraient être, soit au point de vue du degré, soit au point de vue de leur adaptation. Et ainsi l'argument tombe. Vous voyez la chose. Sed malus modus, vel mala species, vel malus ordo, aut ideo dicuntur, quia minora sunt quam esse debuerunt, aut quia non is rebus, accommodantur, quibus accommodanda sunt. Ut ideo dicuntur mala, quia sunt aliena et incongrua. C'est très rare l'aliena, hein. Il faut bien le voir ici. Et incongrua. Donc, c'est le point de vue. S'il y a privation de ces différents aspects, nous sommes en présence nécessairement d'une réalité qui n'est plus parfaite. Si elle n'est plus parfaite, il lui manque quelque chose, et donc elle est mauvaise. Et elle peut être affectée mauvaise quant à son ordre, quant à son espèce, quant à son ordre. Ouais, c'est ce que je vous disais, que le mal est plus ou moins profond. Alors, dernière remarque. Et enfin, selon saint Augustin, mode, espèce et ordre dérivent de nombre, poids et mesure. Or, tout bien n'offre pas ses derniers caractères, puisque saint Ambroise dit de la lumière, par exemple, qu'il n'appartient pas à sa nature d'être créé avec nombre, poids et mesure. Tels ne sont donc pas les caractères du bien. Ça, c'était Dominem. Quant à la lumière, saint Ambroise l'a dit étrangère à nos trois attributs, non absolument parlant, mais par comparaison avec les êtres corporels, au regard desquels elle jouit d'une sorte d'universalité, étant une qualité active du premier corps altérant, de la nature, à savoir le ciel. Ah, vous voyez la réponse, hein, elle est assez curieuse. Elle est amusante, c'est toute la question de la lumière. Hein. Alors ça, c'est une question importante et en même temps très délicate, parce qu'on est entre la philosophie et la physique d'Aristote. Hein. Alors, la lumière, ça joue un très très grand rôle dans saint Thomas. Et c'est par là qu'on dit que saint Thomas est dépendant de la physique d'Aristote. Or, la lumière, pour saint Thomas, n'est jamais un principe. Jamais. Donc, ça ne touche pas à la structure de sa pensée. Mais c'est l'illustration. Alors, je lis. « Natura lucis dicitur esse sine numero. » Sine pondere, sine mansura. Non simpliciter, sed per comparationem ad corporalia. Quia virtus lucis ad omnia corporalia se extendit. In quantum es qualitas activa primi corporis alterantis. Chilichet. Qu'est-ce que c'est que la lumière pour saint Thomas? Qu'est-ce que c'est que la lumière pour Aristote? C'est la qualité active du premier corps altérant. C'est la première qualité. Or, si c'est une qualité active du premier corps altérant, vous comprenez bien que la lumière n'est pas bonne en elle-même, n'existe pas en elle-même. C'est une qualité. Donc, ce n'est pas le bien. Le bien est substantiel. Alors que la qualité ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'on peut dire que la nature de la lumière est dite exister sans nom, sans poids et sans mesure. Parce que c'est les réalités subsistantes qui impliquent ça. C'est la forme, voyez. C'est la forme subsistante, c'est la réalité qui existe. C'est pas la forme accidentelle, ça. Je ne peux pas prendre cette division pour une forme accidentelle. C'est une forme substantielle. Pour toute forme substantielle, je peux regarder la disposition et la propriété, mais pas pour une qualité. La qualité inhère directement, sans disposition. Tandis que la forme substantielle inhérente à la matière a besoin de la disposition et a besoin de la propriété. Donc c'est saint Thomas précise. C'est pas étonnant pour la lumière, qui est une qualité d'un corps physique, selon la perspective de saint Thomas et d'Aristote, que la qualité étant une qualité active du premier corps, la lumière n'implique pas ces trois considérations qui regardent toujours une réalité bonne. Toute réalité bonne en tant que bonne subsiste. Alors, nous allons tout de suite passer maintenant. Vous réfléchirez bien à cette question, s'il ne faut pas trop s'attarder à ça. On voit que c'est difficile. Hein. C'est difficile à cause des confusions possibles entre le domaine d'une méthode aristotélicienne et d'une méthode proprement augustinienne. C'est pour ça que les objections vont en quantité. Vous voyez. C'est normal, ça. On va tout de suite voir l'article 6, qui est un article très important. Le bien est-il correctement divisé par honnête, utile, délectable? Vous voyez, ce qui est intéressant ici, ce sont des divisions du bien. Alors, comme ce sont des divisions du bien, il est intéressant de regarder ça. de regarder ces différents aspects. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ben appelez-les, oui. Oui, c'est... Alors, voyons. Saint Ambroise fait appel à cette division du bien. Vous voyez, il y a au fond deux divisions du bien. Cette première division, ce n'est pas une division ici. Hein, pas une division. Ce sont des aspects particuliers sur le bien. Tandis qu'ici, nous allons faire une division du bien. C'est toujours très intéressant. Vous allez le comprendre de plus en plus. Que la division nous aide à connaître la réalité. On ne divise pas n'importe comment. Si on divise bien. Alors, il y a une division classique. Le bien est honnête. Le bien est utile. Le bien est bête. C'est une fameuse division qu'Aristote reprend dans l'éthique, nous la connaissons bien, en disant que l'amitié est honnête, utile, bête. Donc la division de bien n'apparaît pas sur la division de l'éthique, en reprenant cela. Cette division, elle repose sur tout un aspect pythagoricien. C'est très vieux. Hein? C'est très, très vieux. C'est toute une histoire, cette division. Et alors, on voit ici que saint Thomas va donner un nouveau sens à cette division. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'il y a une nouvelle notion du bien chez saint Thomas et chez Aristote. Il semble que cette division convienne en propre au bien humain. Non au bien en général qui nous occupe. Ceci, c'est tout à fait juste pour Aristote. Pour Aristote, cette division honnête, utile, délectable, regarde le bien humain. Et alors, saint Thomas va ajouter, toutefois, en prenant les choses de plus haut, in venitur et divio proprie competum. Si tamen alcius et communius consideremus rationem boni. Donc on ne regarde plus le bien humain, on va regarder la ratio boni. Ça, originalité de Saint-Homme. Ça, c'est propre à Saint-Homme. Si je m'élève plus haut que le bien humain, et si je regarde la ratio boni, si tamen altius et communius consideremus rationem boni, in venitur ec divisio proprie competere bono, secundum quod bono. Cette division regarde le bien comme tel, et non pas le bien humain. En effet, une chose est bonne, en tant qu'elle est désirable et s'offre comme terme au mouvement d'une faculté du désir. Or, le mouvement d'une telle faculté peut se juger d'après ce qui se passe dans le mouvement des corps naturels. Une analogie très, très curieuse. Hein? Une analogie très classique chez saint Thomas. Hein? Ça constate. C'est pour ça qu'elle est intéressante à voir. Elle est difficile à bien comprendre. Or, le mouvement d'une telle faculté peut se juger d'après ce qui se passe dans le mouvement des corps naturels. Un corps naturel termine son mouvement, absolument parlant, au bout de sa course. Il se repose à ce moment-là. Mais on peut dire aussi qu'il le termine relativement en chaque point de l'espace intermédiaire qu'il traverse, en allant de l'extrémité où le mouvement s'achève. Ainsi, on a coutume d'appeler terme d'un mouvement tout point où une partie du mouvement se termine. En outre, le terme dernier du mouvement peut être envisagé à un double point de vue. On peut appeler ainsi la chose même vers laquelle tend ce mouvement, comme un nouveau lieu, une nouvelle forme d'être. Ou bien le repos du mobile dans cette acquisition, en appliquant cette analyse aux facultés de désir, si l'on considère ce qui est pour le mouvement de l'appétit un terme relatif, on lui donne le nom d'utile. Considérant le terme où s'achève finalement le mouvement appétitif et le comprenant comme la chose même vers laquelle tend proprement l'appétit, on l'appelle l'honnête. Car ce mot convient à ce qui est désirable de soi. Enfin, ce à quoi se termine le mouvement de l'appétit, si l'on entend par là le repos du désir dans la chose possédée, c'est le délectable. Comme c'est curieux. Très très curieux comme manière de regarder. La division du bien humain, honnête, petit, délectable. Aristotélicienne, pythagoricienne. Vieille division. Saint Thomas va essayer de montrer que cette division regarde pour la ratio bonus. C'est difficile. Hein? Parce que si ça regarde la ratio bonus, alors en Dieu. La ratio bonus. Alors vous pouvez dire qu'en Dieu, vous trouvez le bien honnête, utile, délectable. Honnête et délectable, ça va encore, mais utile. Vous voyez que c'est pas commode. Et saint Thomas le dit textuellement. Je suis bien obligé de respecter le texte de saint Thomas. Et la grosse objection qui vient tout de suite, parce que la ratio bonus, c'est quelque chose qui n'implique aucune imperfection. La ratio bonus comme telle n'implique aucune imperfection. Alors si vous divisez la ratio bonus en honnête, utile, délectable, est-ce que l'utile n'implique pas une imperfection? Est-ce que dire qu'une chose est utile, est-ce que ça n'implique pas nécessairement qu'on la relativise? Le bien est utile que quand il est relativisé. Honnête et délectable n'implique pas d'interprétation. Et ça fait une division qui s'applique à la ratio bonus. Je fais ça devant vos yeux, parce que ben, je crois qu'il faut pour ça obstacle, hein, il faut bien voir la difficulté. Il faut voir la difficulté de voir comment je peux dire que la ratio bonus implique utile. Ça, il faut y réfléchir. Une méditation sérieuse. Hein? Comment la ratio boni implique l'utile? Étant donné que utile est, il me semble, quelque chose de relatif. Donc quelque chose qui implique nécessairement une limite. Si ça implique nécessairement une limite, alors la ratio boni impliquerait une limite. Alors je ne fais plus la ratio boni, je ne peux plus l'appliquer à Dieu. Or je dis que Dieu est bon. Et il dit dans l'Écriture que Dieu est bon. Si Dieu est bon, il n'y a pas d'imperfection dans la ratio bonus. S'il n'y a pas d'imperfection dans la ratio bonus, je dois au moins mettre entre parenthèses l'utile. Les deux autres, j'accepte l'utile. Que le bien humain implique l'utilité, ça c'est vrai. Il y a des remèdes. Hein? La fonction du... Et celui qui veut vous guérir, Vandermeer, le père châtie bien, c'est utile. Ça fait partie de ça, ça fait partie de l'utilité, la correction, les remèdes utiles. Mais Dieu, non, il ne peut être qu'un bien absolu. Alors vous voyez comment saint Thomas va parvenir. Parce que là, il y a une intuition de saint Thomas. Il y a une intuition. Il y a quelque chose de très original. Il faut voir si on peut l'accepter, hein. On va dire, saint Thomas dit, donc c'est vrai, donc. Hein. C'est difficile de corriger saint Thomas. Hein. Même pas ça. Et il faut bien reconnaître que c'est pas commode. Alors, faisons grande attention à ce qu'il dit. On part de la notion du bien en tant qu'appétible. C'est ça qu'il faut bien saisir. Bonus est aliquid in quantum est appetibile. Et terminus motus appetibus. Donc le bien en lui-même, on l'a toujours dit, c'est ça qui est la ligne de fond de tout cet article, de toute cette question. La ligne de fond de toute cette question, c'est de découvrir que le bien est appétible. Vous voyez, c'est intéressant parce que toute division révèle ce qu'il y a de caractéristique dans la réalité pour supprimer toute obscurité. Hein. C'est le propre de la division. Quand vous êtes en face d'un tout confus, vous divisez. Et à partir de ce moment-là, la confusion disparaît. La division, ça, c'est un instrument. C'est logique, la division. Hein. C'est un instrument de la pensée, c'est parce que nous sommes toujours en présence de tout confus,